السابعة من هدايات سورة الفاتحة أو من بعض هدايات سورة الفاتحة. ونذكر سريعا الهدايات التي مرت معنا، فمن يذكر لي الهدايات والدروس الستة التي درسناها فله هدية. Donc, on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, la septième leçon, ou la septième guidée parmi les guidées tirées de Sourate Al-Fatiha. Avant d'entamer cette septième leçon, on va rappeler brièvement les sept leçons, ou les six premières leçons que nous avons citées. Donc, qui peut nous rappeler les six premières leçons? Il y aura un petit cadeau, Inch'Allah. Donc la première, c'était laquelle? Qui se souvient?
Tawhid. Les noms de Sourate Al-Fatiha.
Ça, c'était dans l'introduction. La première guidée qu'on a vue. Ça revenait où? Aux maladies du cœur et du corps. Voilà. Al-Istishfa'u bi Sourate Al-Fatiha. Donc la première leçon, c'était que Sourate Al-Fatiha était un remède pour le cœur, pour les maladies du cœur et pour les maladies du corps. La deuxième, l'aqsam al-tawhid. Que Sourate al-Fatiha nous indiquait les trois types de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Tawhid al-Asma et wa Sifat, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms et dans ses attributs. La troisième leçon.
Le péché du grand péché, moi. Il y a qu'un arbre.
Les deux conditions de l'acceptation d'une œuvre. Qui étaient? Quelles sont les deux conditions pour la sincérité et le mutaba et le suivi formel du prophète à l'essence. Quatrième leçon. On a passé du temps dessus.
Sirat al-Mustaqim.
Ahsan. Ma huwa sirat al-Mustaqim. Ou as-sirat al-Mustaqim. Le droit chemin. Et on avait divisé cela en quatre. Qu'est-ce le droit chemin? Qui sont les gens du droit chemin? Les obstacles, et c'est là qu'on avait parlé du chiffre, de l'innovation, des grands péchés, les obstacles qui obstruent, les obstacles que la personne va rencontrer sur son droit chemin. Et ensuite, la sixième leçon.
La cinquième leçon.
Après le droit chemin, après avoir évoqué qu'est-ce qu'était le droit chemin, quels étaient les obstacles? On avait vu at-tahdhir min khuruji sirat al-mustaqim. Le fait d'être prudent ou la prudence contre le fait de ne pas sortir de ce droit chemin. Et la gravité de celui qui sort de ce droit chemin. Et la sixième leçon,
croire au jugement, pardon.
At-taqriru al-iman bil yawm al-akhir. Donc le fait d'approuver la foi au jugement dernier. Donc retenez-les, Inch'Allah, on refera cet petit examen, et celui qui les sortira, Inch'Allah, il y aura son hadith. Fa al-hidayah al-sabi'a, taqriru al-iman bil-qadar. Wa min hidayati hadhihi surah, bayanuha wa taqriruha lil-iman bi-aqdarillahi tabaraka wa ta'ala. الذي هو أصل من أصول الدين، فإن أصول الإيمان ستة بينت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc parmi les guidées et les leçons que l'on peut tirer de sourate al-Fatiha, il y a le fait que cette sourate nous explique et nous affirme et nous approuve le fait de croire au jour du au, le fait de croire au destin, le fait de croire au destin. C'est-à-dire que lorsque l'on médite sur Sourate al-Fatiha, cela va revenir à la méditation et la croyance sur le destin, sur les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de croire au destin, cela fait partie des fondements parmi les fondements de la foi. Car les fondements ou les piliers de la foi sont au nombre de 6. Et ces 6 sont venus d'une manière explicite dans le Coran et d'une manière explicite dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces 6, il y a le fait de croire au destin. فمن هذه الأصول الإيمان بالقدر وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الإيمان بالقدر أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن وأن الأمور كلها تحت تدبيره وتصريفه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. Parmi les fondements et les piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin, le fait de croire d'une croyance fermée, ancrée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est al-qadir. Il est capable de toute chose. Il est capable de toute chose. Et que tout ce qu'Allah azza wa jal veut se produit. Et tout ce qu'il ne veut pas ne se produit pas. Voilà la foi au destin. Tout ce qu'Allah azza wa jal veut, ça se produit. Il n'y a rien qui ne peut se produire sans sa volonté. Et il n'y a rien qui ne peut ne pas se produire sauf si il l'a décidé. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut, il se produit. Et tout ce qu'il ne veut pas, il ne se produit pas. Également parmi la croyance au destin, il y a le fait d'approuver et de croire que tous les commandements, tous les ordres sont sous sa gestion. Sont sous sa gestion. Et que tous les hommes sont sous sa direction. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui gère tout et c'est lui qui dirige tout. Et personne ne peut s'opposer à son jugement. Personne ne peut s'opposer à son jugement et personne ne peut rejeter son décret. Personne ne peut rejeter son décret. فَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ لا يقبل الله من العبد طاعة أو لا يقبل من العبد طاعة ولا ينتفع بعمل ما لم يكن مؤمنا به ما لم يكن مؤمنا به. Donc le fait de croire au destin est une base, est un fondement, est un pilier parmi les piliers de la foi. Et Allah تبارك وتعالى n'accepte ça arrive à tout le monde. Je vais l'éteindre. Et Allah Azza wa Jal n'accepte aucune obéissance et aucune adoration d'une personne qui ne croit pas en ce pilier de la foi. Et tant que la personne ne croira pas à la Ola, et tant que la personne ne croira pas au destin, aucune œuvre ne lui sera profitable. Aucune œuvre ne lui sera profitable. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه عن جماعة أنهم أنكروا القدر أنكروا القدر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني هذا قول ابن عمر أنني بريء منهم وأنهم براء منك. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه حديث جبريل، ثم بعد هذا السبب روى عن أبيه حديث جبريل، وفيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. Donc nous avons expliqué que tant que la personne ne croira pas au destin, Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera de lui aucune adoration. Et aucune œuvre ne lui sera profitable. Aucune œuvre ne lui sera profitable. Et c'est pour cela que lorsque Abdullah ibn Omar, qui était le fils de qui ? Omar ibn Khattab. Et Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon, c'est pas un compagnon ?
Compagnon.
Non, c'est un sahabi. C'est un compagnon. Radiyallahu anhu. Lorsque Abdullah ibn Omar, il a appris qu'un peuple, qu'une catégorie de personnes, qu'un groupe dénigrait et refusait de croire au destin. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, lorsque, à la personne qui lui a informé cela, lorsque tu vas les rencontrer, informe-les que je me désavoue de eux et que eux se désavouent de moi. Et ensuite il dit, et ce en quoi jure Abdullah ibn Omar, ce en quoi jure Abdullah ibn Omar, c'est que si l'un d'entre eux dépenserait en sadaqa une montagne d'or équivalente à la montagne de Uhud, Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera rien de eux tant qu'ils ne croiront pas au qadar, tant qu'ils ne croiront pas au destin. Et ensuite, il a cité un hadith qu'il a retenu de son père, qui est le hadith Jibril, le hadith le plus important de notre religion. Le hadith où que les piliers de l'islam sont réunis, les piliers de la foi sont réunis, la bienfaisance est réunie, le questionnement sur l'heure est réuni et quelques-uns de ces signes. Et ce hadith et cette histoire est tellement importante qu'on ne peut passer sur cela sans la lire entièrement. Et celui qui veut revenir à cela, c'est le hadith numéro 8. C'est le hadith numéro 8 du Sahih Muslim. Hadith numéro 8 de Sahih Muslim. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن تهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا تهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وكيد سيت لشان للترانسميسيون. كان أول من قال بالقدر، يعني من أنكر بالقدر، بالبصرة معبد الجهني هو أول من أنكر بالقدر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون العلم ويجتهدون في طلب العلم وذكر من شأنهم يفعلون كذا يفعلون كذا وأنهم يزعمون لا قدر أو يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. Donc après avoir cité la chaîne de transmission, l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, nous cite le hadith. Et il dit, le premier à contester le destin, la première personne de laquelle est venu cet égarement et ce rejet de la foi au destin, c'était à Bassora, en Irak. Et cette personne s'appelait Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, c'est le premier qui a innové dans cette croyance qui est dans le fait de rejeter la foi au destin. C'est-à-dire qu'il croit en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, mais pas au destin. Ensuite, il dit, donc celui qui rapporte le hadith, Yahya ibn Amour, il dit, avec Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, nous sommes partis accomplir le pèlerinage, ou nous sommes partis accomplir la Umrah. Et nous nous dit, si nous rencontrons l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pourrons le questionner à propos de ce sujet. Et regardez les frères, pour ceux qui partent au Hajj, dans quelques années, des paris ont commencé. Les gens commencent à partir au Hajj. Voilà un des plus grands des bénéfices du Hajj, c'est que les gens rencontrent les savants. Et le musulman se doit d'avoir un lien fort avec les savants de la communauté. Le musulman, il n'apprend pas sa religion, on prend un livre, on lit un hadith et on comprend comme on le veut. Et on polémique toute la journée parce que j'ai compris comme ça et j'ai compris comme ça et j'ai compris comme ça. Non. Le musulman, certes il lit, certes il questionne, certes il recherche la science, mais le musulman doit avoir un lien avec les savants. Comme les tabi'in avaient un lien avec les sahaba. Et comme les sahaba avaient un lien avec le prophète alayhi. Donc on se doit de rechercher notre science. Et lorsque quelque chose nous paraît suspect, on n'attaque pas directement la personne, mais on revient aux gens de science pour savoir si cela, comme eux, ils ont fait. Un groupe parmi eux, ils ont parlé sur le destin. D'accord. Ni on les suit aveuglément, par contre, on va faire le hajj et on va trouver un des compagnons du prophète, alayhi. Nous eûmes alors l'occasion de rencontrer Abdullah ibn Omar. Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité. Et lorsqu'ils ont croisé qui? Abdullah ibn al-Khattab. Alors qu'il entrait dans la mosquée. Donc ils ont vu Abdullah ibn Omar rentrer dans la mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis autour de lui. Ils l'encadrent. Un à gauche, un à droite. Subhanallah ya Rabbi. L'un se tenant à sa droite, l'un se tenant à sa gauche. Pensant que mon compagnon me laisserait la parole, je dis et je déclarais Ô Abu Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui récitent le Coran. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas n'importe qui. Ce ne sont pas des criminels ou des délinquants qui ont dit cela. Mais ce sont des gens qui récitent le Coran, qui apprennent le Coran. Et ce sont des gens qui sont ancrés dans l'apprentissage de la science et dans la recherche de la science et dans la connaissance avec insistance. Et ils citent certaines de ces choses. Et ils font cela, ils font le bien, ils font cela, ils font cela. Mais ils prétendent qu'il n'y a pas de destin. Et que l'événement, c'est-à-dire la chose qui se passe, précède le décret. C'est-à-dire que ce qu'il se passe, cela passe avant le décret d'Allah. Qal, donc c'est à ce moment-là qu'il a répondu à ce qu'on avait expliqué. Qal, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ما قبل الله من أعمالهم ما قبل الله من صلواتهم من صياتهم من صيامهم من زكواتهم من حجهم من أعمالهم صالحة أو من أعمالهم حتى يؤمن بالقدر. حتى يؤمن بالقدر. Ibn Omar radiallahu anhu m'a répondu: quand tu rencontreras ces personnes, informe-les que je n'ai rien à voir avec eux, que je me désavoue totalement de eux et que eux n'ont strictement rien à voir avec moi. Par celui au nom de qui Abdullah ibn Omar jure, par celui au nom de qui Abdullah ibn Omar jure, si l'un d'eux possédait l'équivalent d'Uhud en or, puis qu'il le dépensait, Allah Azza wa Jal n'accepterait aucune chose de sa part tant qu'il ne croit pas au destin. Tant qu'il ne croit pas au destin. Thumma qal, haddathani Abi Omar ibn al-Khattab qal, بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسندا ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Donc il dit: ensuite mon père, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, m'a rapporté. Et là, il ne les laisse pas comme ça. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il ne les laisse pas. Non, c'est faux, et il les laisse comme ça repartir dans leur pays. Non, il leur amène la preuve. Et quelle preuve? Et quelle preuve? Et il leur dit: mon père m'a rapporté. Nous étions en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, quand un homme se présenta à nous, aux vêtements d'une blancheur éclatante, et les cheveux très très noirs, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace de voyageur, de voyage. Ses vêtements blancs, ses cheveux noirs, il n'apparaissait aucune trace de voyage sur lui et personne parmi nous ne le connaissait. Et ce hadith, tout à l'heure, j'avais réfléchi pour expliquer le hadith, mais quand j'ai regardé rien que l'explication que Cheikh Fawzan Hafidallah donne, il y a 62 pages. Et en 1h15, on arrive à faire 4 pages. Donc, Inch'Allah, un jour, bi'idhnillah, si Allah Azza wa Jalla nous permet, on fera une série de cours, mais sur ce hadith. Car ce hadith mérite que l'on s'arrête dessus. Mérite que l'on s'arrête dessus pour le comprendre. Et là, regardez, Omar ibn Khattab, il ne rentre pas tout de suite dans ce qui s'est passé. Il décrit cette scène, tellement cette scène l'a intrigué. Nous sommes avec le prophète, alayhi salam. On voit quelqu'un, ça arrive que quelqu'un est rentré à Médine, mais c'était un voyageur, que quelqu'un que personne ne connaissait. Mais là, cette personne avait des habits tellement blancs, et des cheveux tellement noirs, il était tellement, il y en avait d'une belle allure, que ça pouvait être le train. Avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de... Celui qui arrive en voyage, on le reconnaissait tout de suite. Donc c'était quelqu'un qui habitait chez nous. Mais il n'a aucune trace de voyage et personne ne le connaît. Donc il a été très intrigué. C'est pour cela qu'il fait cette longue introduction. Cet homme rentre dans la mosquée et il prit place auprès du messager d'Allah. Donc il sait directement où aller. Il s'assied devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il met ses genoux contre ses genoux et il met ses mains contre ses cuisses. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'an al-islam. أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال الرجل صدق فقال الرجل صدقت فعجبنا له يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه يسأله ويصدقه ensuite l'homme après être rentré et après s'être assis devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons et après avoir posé les mains sur ses genoux, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, informe-moi sur... Il demanda, ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Informe-moi sur l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'islam, c'est le fait de témoigner qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité à part Allah. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Voilà le premier pilier de la foi. Le premier pilier de l'islam. Les deux attestations. Al-Shahada. Ou Al-Shahadatan. Wa tuqim as-salah. Et d'accomplir la prière. Voilà l'islam. D'accomplir la prière. Et de donner la zakat. Et de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. À la demeure sacrée si tu en as les moyens. Et là, après la réponse du prophète alayhi salam alayhi salam, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit Saddaq, tu as dit vrai. Et là, les compagnons, déjà qu'ils étaient étonnés d'un très grand étonnement, là, ils étaient encore plus étonnés. Ils étaient encore plus étonnés, ils disent, nous étions étonnés de la situation. Il interroge le prophète alayhi salatu wassalam et il approuve lui-même la réponse. Il interroge et il approuve. Tu vas dire. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق. Ensuite il lui dit informe-moi sur la foi. Et le prophète عليه الصلاة والسلام de lui répondre, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et l'homme a répondu, tu as dit vrai. Et l'homme a répondu, tu as dit vrai. ثم قال فأخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا لا أدري متى الساعة وأنت لا تدري متى الساعة. Ensuite, il lui a dit, informe-moi sur l'ihsan. Et là, on voit les différents degrés de la religion. Chez nous, les musulmans, il y a des musulmans, des musulmans. Et il y a des croyants, des mu'min. Il y a des bienfaisants, des muhsinoun. Et il lui dit, informe-moi sur l'ihsan, sur l'excellence, sur la bienfaisance. Il dit, l'excellence ou la bienfaisance, c'est l'ihsan. Cela consiste, yani ce degré, ce plus haut degré, cela consiste à quoi? Cela consiste à ce que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Car sache que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Lui il te voit. Que tu adores Allah Tabaraka wa Ta'ala comme si tu le voyais. Car sache que si toi tu ne vois pas Allah Azza wa Jal, n'oublie pas que lui il te voit. Car lorsque la personne prend conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala la surveille et la voit, lorsque tu es prêt à commettre un péché et que tu prends conscience de cela, cela va être une cause de la préservation de ce péché. Ensuite, il dit, informe-moi sur l'heure. Et le prophète, sur l'heure du jour du jugement dernier, le prophète alayhi salam sallam lui dit, celui qui est interrogé ne sait pas plus que celui qui interroge. L'heure, quand est-ce que l'heure va sonner? Ni moi je suis au courant et ni toi tu es au courant. قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Ensuite, il lui dit, informe-moi alors sur ces signes. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, lui dit, lorsque la femme esclave donnera naissance à sa maîtresse, et que tu verras les bergers, pieds nus, dévêtus, indigents, rivaliser dans les grandes constructions. Tout cela, ça mérite explication. Tout cela, ça mérite explication. الله قال ثم انطلق انطلق رجع إلى مرجع فلبثت عمر لا يستطيع أن ينطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم لا إله إلا الله سبحان الله العظيم الله أكبر أتاكم جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. Ensuite, il lui dit, et cet homme s'en va. Donc cet homme vient, pose ses questions, approuve et il part. Et Omar, radiallahu anhu, ne peut pas partir. Il va rester. Et il reste longtemps avec le prophète, en essence. Il reste. Il est trop intrigué. Et ensuite, le prophète, en essence, lui dit, oh Omar! Sais-tu qui est venu m'interroger? Et Omar lui dit, Allah Azza wa Jalla, son messager sont sa venue. Et il dit, il s'agit de Jibril. Il s'agit de l'ange Jibril. Et il est venu vous enseigner votre religion. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc ce hadith, comme on l'a dit, c'est un hadith dont le musulman doit connaître l'essence, doit étudier. Ce hadith également comme sourate al-Fatiha pour le Coran, ce hadith, comme sourate al-Fatiha et pour le Coran, ce hadith est pour la Sunna. Et dans ce hadith, il y a énormément d'enseignements. Mais on reste avec sourate al-Fatiha, et Inch'Allah, un jour, bi-idhnillah, si on aura l'occasion d'étudier ce hadith, et Alhamdulillah, il y a des explications qui ont été faites, on incite tout le monde à étudier ce hadith et à comprendre ce hadith et à écouter ce que les savants ont dit sur ce hadith. Donc on revient à notre livre. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وأساس من أصول الدين. Donc la foi au destin est un pilier. Est un pilier parmi les piliers de la foi. Et c'est une base parmi les bases de notre religion. وَمَنْ لَا يُؤْمِنْ بِالْقَدَرَ لَيْسَ مُؤْمِنًا وَلَيْسَ مُسْلِمًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً لَا صَلَةً لَا زَكَةً لَا شَيْءٍ. Et celui qui ne croit pas au destin, qu'il sache qu'il n'est pas un croyant, et qu'il sache qu'il n'est pas un musulman, et qu'il sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera de lui ni chose obligatoire et ni chose surérogatoire. Regardez la gravité de douter ou de ne pas croire en cela.
ومثل الإيمان مثل الشجرة التي لها أصل لا قيام لها إلا عليه. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فنتأمل هنا أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن للإيمان. فالإيمان مثله مثل الشجرة لها أصل ثابت إذا قطع أصلها لم يبقى الشجرة بل تموت. تذهب إلى الشجرة وتقطع أصلها ماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. فالإيمان كذلك تأتي بأصلها بأصولها وتقطعها، فهل يبقى شيء من دينك ومن إيمانك؟ لا يبقى شيء. L'exemple de la foi est-elle à l'exemple d'un arbre qui a une racine? Est-ce qu'un arbre peut se tenir debout ou peut vivre sans racine? Pas possible. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le sens du verset, dans Surat Ibrahim, n'as-tu pas vu comment Allah azza wa jal propose en parabole une bonne parole? Pareil à tel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a donné l'exemple de la foi telle où la foi est telle, l'exemple de la foi est tel à cet arbre qui a une racine ferme. Une racine ferme. Si on vient couper et trancher cette racine, si on vient couper et trancher cette racine, est-ce que l'arbre va rester vivant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber, il va mourir. La foi, c'est la même chose. والإيمان له أصول ثابتة فإذا انتفت أو انتفى بعضها لم يبق إيمان وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان. ومن يكفر بالإيمان ماذا ماذا يحدث فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. Donc la foi est comparable à cet arbre, car la foi a des piliers, a des racines, a des bases. Et ce sont des bases qui sont fermes et qui sont ancrées. Donc si ces bases viennent à manquer, ou si une de ces racines vient à manquer, qu'est-ce qui se passe? Ta foi n'existe plus. Ta foi tombe et ta foi meurt. Et ça, c'est le sens de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans surat al-Ma'ida, le verset 5 de la surat 5. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ » Et quiconque mécroit en la foi, quiconque mécroit en la foi, alors son action deviendra vaine. Alors son action deviendra nulle. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامِ لَا يَقُومَانَ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ الَّتِي مِنْهَا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ. Pourquoi? Car la foi et l'islam, l'iman ou l'islam, yani la religion, tiens, pour que ta religion soit droite, pour que ta religion soit vivante, pour que ta religion tienne, elle doit avoir ses bases, elle doit avoir ses racines, et elle doit avoir ses sources. Et parmi ses piliers, et ses bases, et ses racines, il y a la foi au destin. Donc celui qui ne croit pas à la foi au destin, celui qui n'a pas la foi au destin, ou qui doute dans la foi au destin, qu'il sache qu'il n'a ni islam, ni iman, et encore moins ihsan. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الايمان بالقدر نظام التوحيد. الايمان بالقدر نظام التوحيد يعني اصل التوحيد. فمن امن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من امن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. On a cité la parole de Abdullah ibn Omar, qui est claire en ce lieu. On a cité la parole d'Allah, la parole du prophète, la parole des compagnons. Abdullah ibn Omar, ce qu'il a dit par rapport à celui qui ne croit pas ou qui rejette le destin. Écoutez la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il dit, la foi au destin, c'est la base du tawhid. Dans le sens de sa parole. C'est la base du tawhid. C'est la base de l'unicité, de ton unicité. Donc celui qui croit en Allah, mais qui dément le destin, qu'il sache que son dénigrement ou son mensonge au destin aura annulé son tawhid. Aura annulé le fait qu'il croit en Allah. Quelqu'un qui croit en Allah, qui croit aux anges, qui croit aux livres, mais qui ne croit pas au jour du jugement dernier. Le fait qu'il ne croit pas au jour du jugement dernier, ça vient tout annuler. Quelqu'un qui croit en Allah, mais qui ne croit pas aux anges, la même chose. Quelqu'un qui croit en Allah, mais qui ne croit pas au destin. Et bien le fait qu'il ne croit pas au destin, cela va venir annuler sa croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa kalamuhu wadih. رضي الله عنه وأرضاه أي أن التكذيب بالقدر تكذيب بالإيمان وتكذيب بتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى. Et la parole d'Ibn Abbas est claire. La parole d'Ibn Abbas est claire. Celui qui croit en Allah ou le fait que la personne dément et rejette la croyance au destin, cela est un rejet de la foi d'une manière générale. Et cela est un rejet de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est clair. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الله. Et également ce qui vient encore plus nous donner de clarté dans celui qui ne croit pas au destin, c'est la parole de l'Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens de sa parole, le destin est le pouvoir d'Allah. Le destin est la puissance d'Allah. Le destin est la capacité d'Allah azza wa jal. Wallahu jalla wa ala qadir. Qadiru ala kulli shay. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, inna Allah ala kulli shay qadir. Car Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toute chose. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Baqarah le verset 109, et Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toute chose. فَالَّذِي يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ فَيُكَذِّبُ بِمَاذَا هُوَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ حَقِيقَةً يُكَذِّبُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ الذي يكذب بالقدر يكذب بقدرة الله وهو والذي يكذب بقدرة الله هو مكذب بالله تبارك وتعالى هو مكذب بالله تبارك وتعالى وهذا كافر ليس بمسلم ولهذا أيضا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام et Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toute chose. Donc celui qui dément et qui traite de mensonge le destin aura automatiquement traité de mensonge la puissance d'Allah et la capacité d'Allah azza wa jalla. Et celui qui aura traité de mensonge la puissance d'Allah Azza wa Jalla et son pouvoir, automatiquement il aura démenti en Allah. Et il aura traité de mensonge Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette personne qui fait cela est une personne mécréante. Elle ne peut pas être musulmane. C'est pour cela que Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait ? Man kadhaba bil qadar, celui qui dément à la foi du haut destin, faqad kadhaba bil islam. Aura démenti et aura traité de mensonge l'islam complètement. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان ولهذا جاءت الآية الكثيرة في القرآن الكريم مقررة ذلك وأن الأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى كقوله إن الله على كل شيء قدير وقوله سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر ثم قوله وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله ثم جئت على قدر يا موسى وقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله والقدر ما شاء الله كان وما لم يشاء والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن الكريم تقرر أن الأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى
l'œuf. On peut terminer sur ça, je pense.
Non, non, c'est pas le 18. Non, c'est pas le 18. Il y a Stéphane. Il y a 18.
18. Ah, je continue. Ça va.
18.
Ça va, on termine les versets du Coran. Et la foi au destin, surtout dans le rendez-vous du dernier, dans les 10 premiers jours, Inch'Allah. On commence de la meilleure manière avec la foi au destin. Hein? La foi au destin est une base énorme, est un pilier énorme et un pilier central de la foi, parmi les piliers de la foi. C'est pour cela qu'il y a énormément de versets du Coran qui sont venus nous affirmer et nous démontrer cela. Nous démontrer que tous les ordres et tous les commandements étaient sous le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit « Inna Allaha ala kulli shay'in qadir » Certes, Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Certes, Allah Azza wa Jalla sur toutes choses est « qadir ». Allah Azza wa Jalla est « qadir ». Et ça a largement bien plus de sens « al qadir » que la traduction. « Wa qawlih » Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons certes créé toute chose par décret. Nous avons certes créé toute chose avec mesure. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Le commandement d'Allah Azza wa Jalla est un décret inéluctable, est un décret que personne ne peut rejeter. Et dans un autre verset, ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى. Ensuite tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret, conformément à un qadar, à un destin. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Glorifie le nom de ton Seigneur. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. Celui qui crée et qui agence tout harmonieusement. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Et celui qui a déterminé, qui a tout décrété et فَهَدَى, qui a guidé. Et dans un autre verset, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez pas vouloir, sauf ou vous ne pouvez pas vouloir que si Allah Azza wa Jalla veut, le Seigneur de l'univers. Et on avait expliqué que le destin, c'était que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla veut soit. Et que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas, ne se produit pas. Et les versets du Coran par rapport à ce sujet sont nombreux. Sont nombreux dans le Coran qui viennent nous approuver et nous approuver que tout chose est sous le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. فنكتفي بهذا الى الدرس الغد بفضل الله جل وعلا. Donc on continue inshallah demain. Inshallah on va essayer de faire jusqu'au Eid tous les jours. Comme ça on arrête de dire demain. On va essayer de faire tous les jours, sauf si un jour où je ne peux pas, je vous le dirai la veille. Mais Inch'Allah, on va essayer de faire court jusque la veille du Eid, bi'idhnillah, afin d'essayer de terminer le livre, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on rappelle tout le monde que nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours, donc que chaque personne qui compte, qui a l'intention d'égorger et de sacrifier sa bête, ne coupe ni ses ongles, ni ses poils, ni sa peau, et qu'il apprenne dès maintenant les règles du sacrifice. C'est pas le matin même, après Salat al-Aïd, on commence à regarder des vidéos, on commence à essayer de chercher comment, qu'est-ce que je dois dire, quelle est la vocation à dire, comment je dois faire, est-ce que je dois mettre vers la Qibla, etc. Tout cela, le musulman qui compte sacrifier
ou qui a de la famille qui compte sacrifier, se doit d'étudier le sujet afin que ce sacrifice soit fait de la meilleure des manières. Et qu'on n'oublie pas que l'achat de la bête, ce n'est pas un achat de viande. Ce n'est pas une négociation, le moins cher, le sort, le truc, j'ai un plan par ici, par ici. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice que tu fais pour Allah Azza wa Jalla. C'est un sacrifice que tu fais pour Allah Azza wa Jalla. Donc ce sacrifice, qu'il soit le meilleur des sacrifices. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Celui maintenant qui s'associe dans un bœuf, est-ce qu'il est concerné aussi par le fait de ne pas diminuer ses cheveux?
Tous ceux qui sont concernés par le fait de ne pas couper ses cheveux, etc., c'est tous ceux qui payent le sacrifice. Tous ceux qui payent. C'est-à-dire que même une personne, un exemple, toi tu ne sais pas égorger, mais tu dis à quelqu'un, faut t'acheter la bête, mais c'est quelqu'un qui égorge pour toi. Et bien toi, tu es concerné aussi par cela. Pourquoi? Parce que celui qui est concerné par le sacrifice, c'est celui, parce que même si ce n'est pas toi qui égorge, c'est ton sacrifice. C'est toi qui sacrifies. Donc là, ceux qui sont à 7 sur un bœuf, car il est autorisé d'être à 7 sur un chameau, d'être à 7 sur un bœuf, mais il est interdit d'être à 7 sur un mouton. Attention, il ne faut pas à 7 sur un mouton. D'accord ? Qu'est-ce qu'on mange ? Une côtelette. D'accord ? Donc celui qui a 7 sur un bœuf, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice et il est considéré comme un sacrifice. Allahu
Akbar. احنا الناس كده كل واحد بحال الاخوان ده بالسوريان والناس عندنا ناس نزيهين وكذا، هل يستطيع الانسان مثل العيد يدفع هذا الناس؟
يدفع يذبح يعني باسمه هناك، ما في اشكال في بلاد الاسلام، في اي بلاد تستطيع.